Noël. Bonsoir à tous. Effectivement, on va débriefer ensemble. C'est plus de deux heures de débat entre Jordan Bardella et Valérie Yeye. Leur premier face-à-face de la campagne des européennes avec François-Olivier Gisbert qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir à vous.
Bonsoir. J'ai passé un grand moment là.
Un grand moment, mais on va le débriefer, ça tombe bien.
Ouais.
Anna Cabana.
Bonsoir.
Bonsoir à vous. Bonsoir à vous, Tugdual Denis. Bonsoir Christophe Barbier.
Bonsoir Julie.
Bonsoir Bruno.
Bonsoir,
Jeudi.
Julie.
Et bonsoir Pablo Pio Vivien.
Bonsoir.
On va commencer par un premier tour de table. Vous jouez le jeu. En un mot, qui a gagné ce soir? François-Olivier Gisbert.
Benjamin Duhamel.
Non, c'est une blague. Il est pour ça, on est tous d'accord.
Il est très bon, il est très bon.
Mais ça, c'est pas le jeu.
Formidable.
C'est trop facile.
Formidable. Il a beaucoup d'avenir. Évidemment, c'est Jordan Bardella. Évidemment, c'est un rouleau compresseur.
Jordan Bardella, c'est un rouleau compresseur. Anna Cabana.
Elle s'est quand même défendue, Valérie Yeye, c'est-à-dire elle a montré une solidité, surtout qui est allée crescendo à la fin du débat. Donc ça aurait pu être pire pour Valérie Yeye.
Ah oui,
voilà,
ah ouais.
Voilà.
Donc
on peut dire ça.
C'est Valérie Yeye qui remporte.
Je vous ai pas dit ça. Je vous ai dit que ça aurait pu être pire pour Valérie Yeye. Voilà.
Elle s'est bien débrouillée, oui.
Elle s'est défendue. Je m'avoue toujours beaucoup trop. Vous
c'est
savez
une
bien,
Julie. Mais elle a réussi quelque chose quand même.
Tuc Duhal Denis.
Non, j'aurais adoré aimer être contre-intuitif, mais effectivement, Jordan Bardella l'a emporté haut la main.
Pablo.
Les absents, c'est-à-dire la gauche française, je pense. Non, honnêtement, c'était un débat où, globalement, sur beaucoup de sujets, il y avait quand même des points de rencontre sur l'autorité, sur l'immigration, etc. Il y avait des divergences, mais il y avait des points de rencontre. Je pense que les Français et les Françaises, s'ils en ont marre d'entendre ce type de débat, il y a une des alternatives qui sont les listes de gauche.
Bon, donc vous ne vous mouillez pas non plus.
Non, je me mouille pas.
Parce qu'ils étaient deux ce soir.
Oui, mais le truc, c'est aussi un problème en fait de voir ce type de débat comme des matchs. Enfin, ils font leurs propositions aux Français et aux Françaises. Après, à nous de les décortiquer, ce qu'ils ont dit, savoir qui a gagné, à qui donner le point.
Aucun des deux ne vous a convaincu. Bruno, Jeudi.
Le chaos annoncé n'a pas eu lieu. Contrairement à Nathalie Loiseau qui avait beaucoup plus souffert face au même Jordan Bardella il y a 5 ans. Ce fut un chemin de croix pour elle. Je pense que Valérie s'est bien débrouillée, mais que si il faut les départager, au point et au finish, le dernier thème sur le pacte immigratoire est à l'avantage de Jordan Bardella, qui est forcément plus clair, alors qu'elle est plus en difficulté. Au point, c'est Jordan Bardella qui gagne.
Christophe Barbier.
Non, pour moi, c'est Valérie Yeye qui gagne. D'abord parce qu'elle était totalement ou presque inconnue avant ce débat. Elle a montré qu'elle existait, qu'elle avait du cran, du caractère, du mordant. Elle a porté des flèches cruelles quand même. Elle s'est pas démontée. Et puis, elle a quand même beaucoup de retard dans les sondages. Donc, il aurait dû se promener. On l'a vu crisper quand même, Jordan Bardella. On l'a pas vu si à l'aise que ça. Elle évite le naufrage qu'avait connu Nathalie Loiseau. Elle reste dans la course. C'est une bonne soirée pour elle. Elle gagne.
17% dans les sondages. Le dernier sondage Ipsos, 32% pour Jordan Bardella. Si je vous entends quand même, c'est Jordan Bardella qui remporte. Pourquoi Jordan Bardella? Pourquoi vous dites que c'est un rouleau compresseur, François-Olivier Gisbert?
Parce qu'on voit, c'est une machine. Il a tous les chiffres. Il y a un côté hypernésique. Moi, je ne savais pas qu'il était comme ça, d'ailleurs. Il y a des tas de choses qui sortent de sa tête, visiblement. Parce que, si vous voulez, lui, moi, j'en ai vu des débats dans ma vie, j'en ai vu. Et franchement, ceux qui gagnent, parce qu'il a gagné. Christophe, il dit ça parce que, c'est vrai
il
que...
Il en faut bien. Quoi.
Il en faut un qui dise. Et d'ailleurs, attendez, elle n'était pas si mauvaise. Hein, parce que
à mon ça, avis, on l'a tous dit, ça.
À mon avis, elle va exister. Elle existera plus tard.
Elle est moins rodée au débat que Jordan Bardella.
On voit, attendez,
c'est
au début.
Son premier débat, quand même. Mais,
oui, c'est presque son premier débat, quand même.
Enfin, au départ, avec la pression.
Mais elle faisait de la peine. Elle ne le regardait jamais.
Vous êtes dur, quand même, là.
Et elle avait les yeux du lapin devant les phares de la voiture, un peu. Enfin, c'était... Voilà, j'ai cherché ses mots. Enfin, puis surtout, elle récitait des phrases qu'elle avait visiblement apprises. Puis alors, je pense que surtout, elle a écouté des conseillers médiatiques, comme il y a toujours, qui lui ont dit, le regarde pas, etc. Tout ça, c'était des conneries. Elle n'était pas sincère, mais je trouve qu'elle a quelque chose, c'est évident. C'est une machine qui doit encore apprendre beaucoup de choses. Lui, il a 28 ans, c'est ça qui est dingue. Et on a l'impression, déjà, qu'il a la maturité d'un type de 40 ans. Et il avance, il n'a pas peur. Et si vous voulez, il improvise, c'est ça qui est très important. Moi, je me souviens, j'ai vu des débats, Reagan qui écrasait complètement les autres à chaque fois. Et ils savaient pas au départ comment ça allait se passer. Et ça, il y avait ça un peu. C'est-à-dire que il y avait quelqu'un qui récitait des phrases qu'elle avait apprises, quoi. C'est clair, on les sentait, on les entendait. Souvent, ça arrivait comme ça. Et puis quelqu'un qui était plus dans l'improvisation. Mais je le répète,
mais là, vous parlez de la forme. Vous me parlez
de la forme. Non, je parle
mais
de
sur
la forme,
on le disait. Valérie, il y a beaucoup moins l'habitude.
Mais attendez, sur le fond. Vous savez très bien que les débats, c'est aussi un problème de forme. On va pas se raconter d'histoire. Les grands débats de l'histoire politique, que ce soit en France ou aux États-Unis, tous ces débats qu'on a regardés plusieurs fois, qu'on connaît presque parfois par cœur, il y a un problème de... Vous savez, vous gagnez un débat, regardez comment Giscard a gagné la première fois contre Mitterrand en 1981. Et puis, il y a eu entre les deux tours... Enfin, je sais pas, il y avait l'histoire de 74, où vraiment, Giscard a gagné avec « Vous n'avez pas le monopole du cœur ». Après, le débat de 81, où c'est Mitterrand qui a gagné là, contre Giscard en disant « Vous n'avez pas à me donner des leçons », enfin, etc.
Donc c'est la forme qui fait beaucoup, en tout cas.
Mais c'est normal. C'est
mais
normal.
Je pense que vous trompez d'objectif. Bardella, il n'a pas gagné une voix ce soir. Ceux qui votaient pour lui, votent pour lui. Elle, qui revient du diable Vauvert, qui n'arrive pas à mobiliser son camp, qui considère que bon, elle n'existe pas, qu'on ne la connaît pas.
On est d'accord là-dessus. Elle... On ne va pas faire semblant de son galérer.
Si là, il s'agissait de réveiller le camp des macronistes en disant voilà, il y a quand même une candidate, elle a des dents, elle se bat.
Elle tient la route.
Voilà. Donc c'est son enjeu.
J'ai pas dit le contraire.
De faire baisser Bardella, c'est de passer de 17 à 22.
Regarde le débat, c'est vrai que Jordan Bardella, il est 15 ou 16 points devant, devant Valérie Ayer, dont on s'attendait qu'il la mange tout cru. Et honnêtement, lui-même, par moment, a montré à la fois des signes d'agacement et des signes de crispation. Et franchement, le moment Russie-Ukraine a été un moment assez douloureux pour lui. Il était quand même un peu.
Justement, il s'en est bien sorti.
Et on va l'entendre à nouveau d'ailleurs là-dessus.
Parce que sur l'Ukraine, il s'en est bien sorti, alors que le dossier est quand même moyen. Et à l'inverse d'ailleurs, sur le nucléaire, Ayer s'en est bien sorti, Valérie Ayer, alors que le dossier Macron est horrible. Puisque
on va les entendre.
La sécurité, il s'en sort bien aussi. Alors sur le migratoire, c'est du lourd pour lui.
On parle de la forme, mais la forme, c'est pas juste son aisance oratoire à Valérie Ayer, qui est de toute façon effectivement moins bonne que celle de Jordan Bardella, et c'était attendu. Mais elle courait après le chronomètre. Benjamin Duhamel, pendant tout le débat, lui a dit « Attendez, vous avez 3 minutes de retard, donc c'est quand même le signe un peu d'une faiblesse sur le fond. » Elle était beaucoup dans l'agressivité personnelle. On pourrait dire, un peu comme Ségolène Royal face à Nicolas Sarkozy lors du débat d'entre deux tours de la présidentielle, où effectivement, Sarkozy était censé être un peu plus offensif comme personnage politique, et Ségolène Royal avait un peu, à contre-emploi, montré plus d'agressivité. Mais là, ça sonnait un peu faux quand même chez Valérie Ayer, et elle était extrêmement souvent en train de lui parler de lui, de ses problèmes à lui, de sa personnalité à lui, notamment dans le jeu de qualité défaut au début de l'émission, là où Jordan Bardella déroulait effectivement un peu comme un sénateur madré de la politique française son programme et son style.
La question, comme le soulignait Christophe Barbier, c'est est-ce qu'elle a réussi à casser la dynamique, la mauvaise dynamique pour la liste du camp présidentiel.
Bien sûr que non,
elle n'a pas baissé Bardella du tout, mais son problème, elle, c'est de mobiliser les électeurs Macron de 2022 qui ont disparu.
Non, c'est peut-être, disons, ce point de vue, mais c'est un mot, c'est une formule, c'est peut-être une mauvaise émission pour Glucksmann, de ce point de vue. C'est-à-dire que, comme il y a ce match entre eux, parce que, bon,
ils sont un peu dans un mouchoir de poche. 17 pour Valérie Ayer, 14 pour Glucksmann.
C'est le grand risque qu'elle court, c'est que Raphaël Glucksmann passe devant. Et c'est vrai que ce soir, on peut dire, ça ressemble quand même à quelque chose, quoi. C'est tout. Après, simplement...
Peut-être le coup de pied au fond de la piscine.
Donc les courbes, a priori...
On peut pas dire qu'elle a gagné, c'est pas vrai.
Non, mais les courbes, a priori, ne s'inverseront pas.
On n'a pas vu le même
truc. C'était pour elle ce soir, pour Valérie Ayer ce soir, qui est quand même une inconnue pour le grand public, encore jusqu'à ce débat. C'était une chance de franchir le mur du son médiatique, c'est-à-dire que de mettre un tempérament derrière une fonction. Elle est la tête de liste de la Macronie aux élections européennes, et il y avait pas de tempérament, il y avait pas une personnalité derrière pour le grand public. Et ben là, on voit une femme jeune, assez teigneuse dans le sens de combative, d'accord. Alors après, elle est maladroite, elle a trop préparé, elle a appris des phrases par cœur, elle surjoue beaucoup, elle sait qu'elle est en face d'un homme, alors elle lui dit à chaque fois qu'il fait mine de vouloir esquisser le début d'une réponse, elle lui dit ah vous n'allez pas m'interrompre parce que je suis une femme, vous faites ça parce que je suis une femme, donc des choses
alors qu'elle l'interrompt d'ailleurs,
mais des choses qui montrent au fond un un manque de confiance en elle dans, dans cette joute oratoire. Ce qu'on peut dire, c'est que elle a du cran. Et qu'il y a un entraînement politique qui peut suivre son chemin et qui a peut-être, voilà, c'est-à-dire qu'on a la naissance d'une, d'un personnage qui a du cran en politique.
The star is born.
De là, non, non, j'irai pas jusque là, mais ça veut dire, non, mais ça veut dire que là, voilà, ouais. on a un tempérament politique, elle a quelque chose dans le, ventre et dans le cœur politique, cette femme. Et
en ce sens. Vous voyez beaucoup trop de personnages politiques.
Mais non, mais attendez, je n'ai pas parlé de charisme. Attendez, là, qui parlait de charisme.
Quelque chose dans le ventre.
Pablo, des éléments de langage dans le ventre.
Moi, je pense que genre, là, le problème, c'est que vous me dites qu'elle est inconnue, etc. Le problème, c'est qu'elle est comptable du bilan d'Emmanuel Macron. Mmh. Elle est comptable de 5
Vous dites la même chose que Jordan Bardella.
Mais
attention.
Non, mais c'est un problème. Et c'est un vrai problème pour elle.
C'est pas parce qu'il y a un homme qu'il faut l'interrompre. Laissez parler, Pablo.
Et comment est-ce que vous voulez, étant comptable, en fait, de tout ce qu'a fait Macron depuis 5 ans, et voilà, en prenant en considération la situation de la France aujourd'hui, qui est pas, et des Français et des Françaises en fait, qui sont pas tellement raccord avec les propositions d'Emmanuel Macron, si tant est qu'on puisse comprendre la direction qu'il est en train de donner à la France et celle qu'il voudrait donner à l'Europe, sachant que en plus elle a fait que le répéter. Oui, mais vous savez, moi j'ai des propositions pour l'Europe, mais enfin on va pas faire ça tout seul parce que je suis pas tout seul en Europe. Alors que l'autre, il arrive en face, Jordan Bardella, et lui, il mélange à la fois l'empathie, un certain sentiment de classe et une xénophobie qui est complètement maintenant normalisée dans le paysage politico-médiatique. Il mélange tout ça et il fait sa proposition qu'a... En fait, Valérie Ayer, d'ailleurs, a essayé de pointer du doigt, a essayé de dire « Oui, mais attendez, votre double frontière, là, ça marche comment ?» Mais en fait, il s'en fiche. Il est dans l'opposition et de toutes les façons, il sait très bien, il y a de très très fortes chances que le 10 juin, il soit dans l'opposition aussi. Donc il peut raconter n'importe quoi, il peut genre faire des grands plans sur la comète pour la France, dire oui, on va mettre des miradors,
et
on va
mettre des miradors sur la
Okay. Mais c'est une position
enfin, à 30% ça commence à
quoi, 30% pas en Europe.
Non mais
en Europe, cas, Bruno. Non, enfin, genre, je veux dire,
y a
je suis
une
désolé.
Lecture. Il y a la lecture européenne, et il y a la lecture nationale. L'écart, un écart supérieur à 15 points, c'est.
Mais ils peuvent toujours nous dire, ah bah regardez, c'est des lanternes, alors qu'en fait c'est des vessies. Ils vont nous faire ça jusqu'en 2027, et après ils vont se casser les dents sur la réalité de ce que c'est que diriger un pays.
Il y a eu des études qui ont été faites sur l'ensemble de l'Europe, et les partis, même s'ils sont divisés en deux groupes actuellement, on est plutôt pas loin des 200 eurodéputés issus des deux groupes d'extrême droite.
Pas une majorité. Deux groupes qui s'entre-déchirent.
Ça fait pas une majorité.
Mais c'est très bien qu'il resterait dans la majorité, dans la minorité.
Avec un PPE qui résisterait et qui va pencher plus à droite, il peut y avoir, ça peut rebattre les cartes au Parlement européen.
Mais si je vous entends, il est intouchable, Jordan Bardella. C'est déjà gagné, c'est gagné d'avance. Mais si c'est dans un mois, les élections.
Ce qui était très intéressant ce soir, moi, c'est pas ma première élection européenne, j'en ai suivi beaucoup.
C'est la deuxième,
je crois, non. On s'en fout. On s'en fout toujours des élections européennes. D'ailleurs, vous allez voir, on se fout des résultats parce que ça va pas jouer longtemps. Oui, il y aura peut-être un gros score du Rassemblement national. Il y aura un mauvais, très mauvais moment à passer pour Macron. Puis après, les choses vont reprendre leur cours. C'est comme ça à chaque fois. On dit, enfin, l'histoire qu'il va démissionner ou je sais pas quoi, ou qu'il va dissoudre, tout ça. Mais c'est tellement con. Enfin, je dirais. Pourtant, il y a des journalistes, j'entends dire.
La dissolution, vous n'y croyez pas du tout.
On ne sait pas d'où ça sort. Mais je trouve ce qui est passionnant dans l'émission qu'on a vue ce soir. Et ça, vraiment, moi, j'étais vraiment passionné. C'est qu'on voit qu'il y a une nouvelle génération maintenant qui est là, définitivement. On le voit d'ailleurs dans ces européennes. Quand je cite les noms de ces gens, on les voit. C'est-à-dire, ils sont jeunes. C'est vraiment, c'est l'après Macron qui a commencé, en fait, maintenant. Il commencera vraiment très nettement le soir du 9 juin, quand on aura les résultats. Ce sera l'après Macron. Il y aura encore quelques, trois ans à tirer, disons deux ans et demi, ou même deux ans, parce que là, les derniers mois, à mon avis, il fera plus grand chose. Et vous avez des gens qui sont apparus. Que ce soit effectivement bon, Jordan Bardella, il est apparu, il est là depuis longtemps. Enfin là maintenant, il commence, il est en majesté. Valérie Ayer, il faut pas la. Effectivement, c'est pas fini. Hein, elle a beaucoup de choses à apprendre. Mais enfin bon, elle va apprendre certainement. Et puis de l'autre côté, Raphaël Glucksmann, qui a fait quand même un parcours étonnant. Brusquement, le Parti socialiste renaît. Marion Maréchal aussi, qui est en train de s'imposer aussi. Enfin, je veux dire, moi j'essaie de je parle pas de mes préférences, etc.
Mais
je
parle
de ce.
Elle revient
dans la politique.
Non, mais c'est pas
qu'une
histoire de sondage, c'est une histoire de personnages politiques.
Christophe, là, on peut. Pour débattre, il faut quand même avoir des vrais arguments. Moi, je dis, elle n'existait pas. ça fait depuis qu'elle a quitté la députation dans à Carpentras et puis après le conseil régional de PACA, elle n'existait plus. Là, aujourd'hui, je suis désolé, moi, je regarde, elle existe.
Et elle est présente.
Marion Maréchal ne peut pas dire qu'elle n'existe
pas.
Avec une
valeur ajoutée.
On ne fait pas du journalisme.
Avec une valeur ajoutée pour son
corps. Mais non, on ne fait pas le même métier. Je veux dire, moi, je regarde, je vois, c'est tout. Et après, bon, et Glucksmann qui quand même a réussi à inventer quelque chose. Non, mais on peut essayer de comment dire, de temps en temps d'être honnête.
Inventer ou recycler.
Pas juste faire.
Inventer ou recycler, ce qui n'est pas inintéressant dans la.
Oui, oui, bien sûr. Mais
est-ce que je peux répondre à la question de Julie qui demandait est-ce que Jordan Bardella est intouchable? Il est sûrement, évidemment, on peut sûrement le prendre à revers, mais je crois pas du tout qu'en tout cas que la méthode de Valérie Ayé était la bonne. Pour deux raisons. D'abord, elle commence le débat en disant extrême droite. Le problème aujourd'hui en France, c'est que si vous additionnez les voix de Jordan Bardella, les intentions de vote de Jordan Bardella, de Marion Maréchal et de François-Xavier Bellamy, qui est pas vraiment l'aile gauche des Républicains.
Ah oui, j'ai oublié aussi François-Xavier Bellamy. Excusez-moi, dans les débats, il est bon.
Vous êtes déjà à 50% de l'électorat.
Il existe.
Donc, ça veut dire qu'il y a un Français sur deux qui, de près ou de loin, se reconnaît dans les écosystèmes politiques.
Dans ceux qui vont aller voter.
Qui sont défendus par ces trois personnalités-là. Et donc, pourquoi les Français se portent sur ces personnalités-là? Parce qu'ils pensent fondamentalement que l'immigration est un enjeu absolument majeur pour l'avenir de ce pays. C'est central, évidemment, dans le discours de Marion Maréchal, c'est central dans le discours de Jordan Bardella, et c'est assez central dans celui de François-Xavier Bellamy. Et par ailleurs, on pensait que Jordan Bardella était un planqué de cette campagne, ça a été le début.
Il a quand même séché.
Il a séché quelques débats.
Tous les débats.
On a l'impression qu'il snobe un peu certains de ses concurrents, qu'il parle pas extrêmement de son programme. Mais la réalité, c'est que d'une part, en amont, en fait, c'est comme un grand chef d'entreprise. Si vous voulez, vous ne demandez pas au patron de Total de vous expliquer le boulon de 12 dans la raffinerie de Berck-sur-Mer à quoi il sert. Vous lui demandez un peu une vision, un cap, un programme. Et donc là-dessus, il capitalisait. Et par ailleurs, en plus, ce soir, là où Valérie Ayé devait être la révélation technicienne, elle s'est emmêlée les pieds dans le CETA, elle n'a pas été excellente sur l'agriculture, où Jordan Bardella, qui l'air de rien, avec le minimum vital, je pense, de ses acquis d'eurodéputé et de chef de parti, a montré qu'il maîtrisait quand même
mais
des chiffres, des
dossiers.
Mais
est-ce qu'il n'y a pas une question, une thématique sur laquelle il a été quand même mis un petit peu en difficulté,
Russie,
sur
Ukraine.
La question de la Russie et de l'Ukraine.
Peut-être ouais,
vous pouvez
écouter. Pas justement.
Alors, je vais vous entendre dans un instant.
Lui, mais
écoutons peut-être avant Valérie Ayé sur la question de l'Ukraine.
J'entends votre soutien de façade aujourd'hui à l'Ukraine. Je regarde vos votes au Parlement européen. Pas une seule fois, vous n'avez soutenu véritablement l'Ukraine. Je regarde vos votes aussi au Parlement européen, Monsieur Bardella.
C'est-à-dire
pas une seule fois, vous n'avez soutenu l'opposant russe Alexei Navalny. Pas une seule fois.
Quel vote
Par
vous me reprochez,
six fois,
madame.
Nous vous avons demandé de condamner les conditions de son emprisonnement. Par six fois, vous avez refusé de condamner ces conditions. Vous avez fini par le faire au lendemain de sa mort. Et vous étiez là quand sa veuve est venue au Parlement européen. Comment vous avez pu la regarder dans les yeux?
Vous n'avez jamais véritablement soutenu l'Ukraine. Est-ce que là-dessus, elle a marqué des points, Valérie?
Oui, elle a marqué des points. C'était sans doute la partie peut-être aussi où elle pouvait en marquer, où elle était sans doute la plus à l'aise, parce que le bilan des votes de Jordan Bardella par le dernier ne plaide pas en sa faveur en matière de soutien à l'Ukraine, ni également il aura du mal à cacher l'histoire de son parti, et y compris récente, d'un soutien fort à Vladimir Poutine. Donc il s'est défendu comme il a pu. C'est le moment où il a le plus agité les bras et les épaules. Dans ces cas-là, le body language parle tout seul, et on voit l'état de crispation et de nervosité, parce que c'est vrai que là, à ce moment-là, peut-être qu'au début d'émission, elle avait du mal à regarder dans les yeux. C'est à ce moment-là que lui, il avait du mal à la
avec un Thierry Mariani qu'on connaît comme étant très proche de la Russie, ne vient
de la liste. Pour le coup, c'était quasiment il est sur ma liste. J'avais oublié qu'il était sur ma liste.
Il avait
un côté private joke, parce que ça passe totalement au-dessus de la tête des gens. Enfin, c'est complètement incroyable.
Il représente les idées de Sarkozy. Il n'est pas d'accord avec moi.
Je ne suis pas d'accord.
Vous êtes un ministre de Sarkozy. Alors attendez.
L'épisode là sur l'Ukraine. Moi, je trouve qu'elle n'a pas été assez loin. Comme d'ailleurs, de l'autre côté, je trouve que l'épisode sur le nucléaire, où le bilan Macron est effrayant, parce qu'il quand même il a failli tuer le nucléaire. Je ne sais pas pourquoi, mais Bardella n'a pas non plus planté le fer.
C'est-à-dire, elle aurait dû dire quoi sur l'Ukraine alors ?
Ah bah sur l'Ukraine, c'est effectivement aller un petit peu plus loin sur le côté russophile. Elle le fait un peu, mais je trouve qu'elle fait le service minimum. Et bon, mais peut-être que après tout, c'était pas non plus, l'occasion de. Peut-être qu'elle avait pas envie, je ne sais pas. Mais enfin, je trouve que ça, elle va beaucoup moins loin qu'elle pourrait aller. Et c'est la même chose de l'autre côté. C'est comme si, vous voyez, il gardait des choses, mais par moment, quand même, ça y va fort. Là.
Je suis assez d'accord avec ce que vous dites, Ranz Olivier, parce que au fond, la question que vous posiez, Julie, de savoir si est-ce qu'il est inébranlable, Jordan Bardella. En fait, c'est une question que se pose quand même un énorme pan de l'échiquier politique qui va DLR jusqu'à l'extrême gauche. Tout le monde se dit, mais comment est-ce qu'on fait pour bloquer en fait cette dynamique de l'extrême droite. Et au fond, là, ce qu'on a vu ce soir, c'est que Renaissance, Valérie Ayé en particulier comme tête d'épingle, ça fait pas la rue Michel quoi. Ça fait pas le barrage contre le Rassemblement National. Enfin, c'est pas assez efficace en fait pour lutter contre la violence en fait de ce qui est proposé par Jordan Bardella.
Mais elle n'est pas toute seule.
Je prends un exemple juste sur la Seine-Saint-Denis. Ce qu'il a dit sur la Seine-Saint-Denis, qu'il a dit qu'il ne voulait pas de cette France-là. Mais moi j'ai une pensée en fait pour tous les gens qui habitent en Seine-Saint-Denis. Et quand la façon dont il les a stigmatisés, c'était absolument moi j'ai trouvé ça m'a retourné le ventre. Et Valérie Ayé n'a rien dit.
Enfin, lui, sans la mer.
Lui, il vient de la Seine-Saint-Denis.
Exactement. Macron.
Oui, mais Bardella, c'est un.
Et alors
il vient. Non, mais j'ai.
Il a une raison pour parler comme ça.
Il l'a rappelé à de nombreuses reprises dans le débat.
Non, mais Pablo, il n'est pas exclu qu'il y ait certains habitants de Seine-Saint-Denis qui aimeraient bien vivre dans un autre environnement qui est le leur aujourd'hui.
Oui, et
vous avez entendu la façon dont il en a parlé.
Non, mais Pablo,
en fait, c'est du
Que
Duc d'Alzoni soit d'accord avec Jordan Bardella ne m'étonne pas. Mais en fait, à ce moment-là, je pense qu'il y a une grande partie.
Pas l'endroit le plus.
À ce moment-là, en fait, elle aurait pu mettre en avant le racisme de la proposition de Jordan Bardella et elle ne l'a pas fait. Ouais. Elle est restée en. Oui, elle est, on ne sait pas pourquoi. Elle nous parle d'autorité, de machin. C'est-à-dire qu'elle est revenue en plus sur les thèmes qui sont justement les thèmes du Rassemblement National. Et ça, c'est un problème lorsqu'il s'agit de faire un barrage.
Nous, on est extérieurs à l'affaire sur Valérie. Je ne connais pas un macroniste qui en off ne dise pas que cette candidate est absolument nullissime. Et moi, je m'interroge sur la.
Un macroniste qui ne dit pas.
Je ne connais pas un seul macroniste qui en off ne dise pas que cette candidate
est nullissime. Ce soir, elle a pas été nullissime.
Je pense que ça beaucoup de macronistes.
Ah oui, avec Bruno. Je parlais à des ministres, à des ministériels. Ils disent que c'est une catastrophe.
Enfin, mais ne parlez pas tous en même temps.
Je vois autant de responsables macronistes que vous, Tuc Doyle. Franchement, ils disent pas tout ça.
Ah bah, moi, tout ce que je veux
dire, qu'il n'y en a aucun qui dit.
Et ce soir,
je vois. Tout ce que je vois, disent qu'il est Je m'interroge sur la stratégie d'un parti présidentiel quand même, qui met une inconnue extrêmement douée. Comme tête de liste européenne.
Il y a 5 ans, ils en avaient une qui était pointue.
Ce débat, je le répète, pour moi, était absolument passionnant. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Pablo. J'avais le sentiment qu'ils retenaient leurs mains. C'est-à-dire, vous savez, ces débats, en principe, il y a des grands enjeux. C'est des enjeux à mort. Hein, il y aura un mort à la fin. Et les débats télévisés présidentiels, il y a très souvent.
Oui, mais c'est toujours, des européennes.
Il y a très souvent un mort à la fin. Mais c'est important comme enjeu. Elle a en face de lui, Bardella, c'est un personnage considérable. Puis lui, il pourrait, parce que c'est quand même considérable aujourd'hui, il est quand même.
Mais lui, son intérêt, c'est d'être matois.
Son intérêt est d'être matois, mais il aurait pu peut-être à un moment donné.
Il montre qu'il n'est pas agressif, qu'il n'est pas d'extrême droite.
En même temps, c'est vrai qu'ils ont tous les deux retenu, j'ai le sentiment. Il y avait quelque chose de, comment dire.
D'une retenue,
absolument, malgré les apparences.
Elle a essayé, quand même.
Parce qu'elle avait ses dossiers à la con, mais franchement, les photos, tout ça, ça convainc personne, on comprend rien.
La photo de Florence les avec citations. Ses alliés.
Oui, mais les citations. On est déjà ailleurs, enfin, c'est fini.
Vous avez tous les deux leurs dossiers, d'ailleurs.
Ouais. Mais le sujet pour elle, c'est qu'elle avait tellement préparé qu'au fond, elle écoutait peu ce qu'il disait. Elle n'était pas dans la répartie et dans le répondant.
C'était l'improvisation. Il n'y a pas d'improvisation.
C'était très intéressant. C'est-à-dire qu'elle était belliqueuse par fonction, si vous voulez. C'est-à-dire qu'elle était, elle était là pour contrer le bulldozer Bardella.
Avec des éléments
et,
de langage.
Et en fait, elle avait préparé des phrases. C'est comme cette phrase qu'elle a répétée deux fois. Je ne suis pas candidate à la présidence de la République ou au poste de Premier ministre. Mais elle le disait, en fait. Elle savait qu'il fallait le dire. On avait dû lui dire de le dire. Oui. Mais elle le disait à des moments qui n'étaient pas forcément opportuns. Oui. Et elle balançait sa phrase, puis elle l'a rebalancée. Idem pour la façon de dire « Laissez-moi parler, c'est pas parce que je suis une femme que vous allez me couper, etc. » Et lui, au fond, lui, pour le coup, il était sur les balles, il essayait d'avoir du répondant. Mais ne voulant pas paraître irrespectueux, ne voulant pas paraître machiste, il était moins teigneux qu'il ne peut l'être, moins bulldozer.
C'est ce que je disais. Merci de le dire.
À la fin, on avait. J'adore quand vous êtes d'accord avec moi, François-Olivier Zichard. Mais est-ce que vous me coupez la parole parce que je suis une femme? Non, j'ai besoin de savoir ça ce soir, François. C'est très important.
Vous aviez coupé la parole.
Coupé la parole, tout le monde vous rassure.
Mais je blaguais. S'il faut préciser à nos téléspectateurs. Il arrive qu'on puisse faire du second degré, même sur un plateau de télévision. C'est ça qui est bien. Non, mais ça veut dire qu'à la fin, on était un peu sur notre fin en matière de débat. C'est-à-dire qu'elle, elle ne sait pas débattre et lui, il s'interdisait de débattre. Voilà. Exactement. Pour résumer.
Ça n'est pas allé jusqu'au sang. Vous voyez, on attend.
Et vous auriez aimé ça.
On aime quand le sang.
Je n'ai jamais vu de débat européen qui se termine comme ça. Oui. Parce que j'en ai vu quand même pas mal aussi. Un peu moins que vous, et je n'ai jamais vu de débats européens qui se terminent véritablement comme ça.
Ça n'est peut-être pas un débat comme les autres. Je pense que si on regarde les autres débats des années précédentes, il y aura moins de monde devant l'écran qu'hier, que ce soir.
Peut-être.
Et ce soir, il y avait certainement
plus de monde. Il y a cinq ans, ça s'était terminé par un vrai chaos. Et ça avait été un peu la surprise et sans doute la révélation de Jordan Bardella ce soir-là. Parce que franchement, à l'âge qu'il avait à l'époque, avec l'expérience en moins, il avait dominé totalement et il avait été très fort. Là, je trouve que ce n'est pas le cas. Peut-être qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout pour des raisons différentes et l'un et l'autre.
Mais il avait l'air d'y aller.
L'enjeu...
Merci de répéter ce que j'ai dit.
L'enjeu... Mais on répète tous toujours ce que vous dites, François-Olivier Gisbert. On y est condamné.
Valérie Ayé, c'était aussi... Alors, non seulement de gagner le match face à Jordan Bardella, mais gagner le match aussi face à Raphaël Glucksmann. Je voulais qu'on regarde, et je vous donne la parole, Christophe, la courbe des sondages, qui est assez révélatrice. Jordan Bardella, on l'a dit, qui est très très loin devant, vous le voyez en violet. Et puis Renaissance et PS, ça commence à se rejoindre. On a 17 points,
alors là, vous avez,
14 points.
Vous avez deux théories, Julie, qui vont s'affronter. La théorie de la ligne et la théorie de la bulle. La théorie de la ligne, La théorie de la ligne, c'est que vous prenez une règle, puis vous prolongez les deux courbes, celle du bas et celle du milieu.
Ça marche comme ça.
Et vous voyez que Place Publique va passer devant Renaissance, comme Le Pen est passé devant Jospin ou Jospin derrière Le Pen en avril 2002. Puis l'autre théorie, c'est la théorie de la bulle. C'est de dire, oui, mais Glucksmann, en fait, il a simplement récupéré les électeurs de Jadot, c'est un candidat germano-pratin intellectuel, c'est une bulle, ça ne tiendra pas. Certains vous tiennent cette analyse. Qu'est-ce qui sera vrai le 9 juin? La théorie de la ligne, et il passera devant Valérie Ayé, ou bien la théorie de la bulle, et il retombera à 8, 9, 10, et elle sera loin devant. C'est cela qu'elle jouait ce soir, essayer de crever la bulle Glucksmann. Aujourd'hui, un électeur macroniste qui, depuis 3 semaines, se dit... Oh, Glucksmann, pourquoi pas? Moi, je viens de la gauche, c'est bien, il réveille la gauche social-démocrate, faut l'aider à combattre les filles. Allez, je vais laisser tomber Ayer, je vais voter pour Glucksmann. Il regarde le débat ce soir, il se dit, ah, quand même, face au RN, Valérie Ayer, elle a tenu. Elle a décoché des flèches, elle a tenté des choses. Finalement, la valeur ajoutée de Glucksmann dans ce combat, elle est pas si importante. Et puis Glucksmann, quand même, il a sur la liste des jambes de la NUPES, il est un peu encombré par cette alliance avec LFI qui l'empoisonne. Et donc, ce soir, si son objectif à elle, c'était de dire aux macronistes de gauche, revenez, ne vous abstenez pas, ne votez pas Glucksmann, je pense qu'elle a marqué des points. Elle n'a pas été nullissime.
Vous avez tout ce qu'il y a à dire. C'est
que il y a 5 ans, il y a un candidat qui était comme ça aussi, qui a été assez haut à un moment.
C'était Bellamy.
Et qui s'est cassé la gueule dans la dernière ligne droite. C'est François-Xavier Bellamy parce qu'il s'est fait pomper ses voix par le vote utile directement sur la.
Par Edouard Philippe.
Lui, il peut revenir là. Parce qu'il est là où il est.
Et là, cette fois-ci, moi, je crois que Glucksmann, il a un avantage quand même. Alors parce qu'il est haut. Donc, est-ce que c'est l'effet bulle ou pas? Il a un avantage, c'est que pour la gauche. Qui n'a pas été au-dessus de 10 dans des élections comme ça depuis longtemps, il y a la possibilité de mettre aussi une claque à Emmanuel
un
Macron.
Un peu de printemps.
Et du coup, il y a une partie
c'est
de la
théorie de la ligne
vote, qui peut faire un vote utile à travers Glucksmann.
C'est la théorie de la ligne. Vous êtes plutôt ligne ou bulle, vous?
J'en sais rien, moi, je mise pas sur l'avenir. Mais quand on regarde aujourd'hui dans les études d'opinion là qui sortent et les sondages, on voit que Glucksmann, c'est le seul candidat de tous. Hein. C'est la seule liste qui va chercher, qui va agréger en fait plusieurs électorats des gens qui avaient voté en 2022. C'est-à-dire que vous retrouvez en gros entre un quart et un tiers d'électeurs de Mélenchon, entre un quart et un tiers d'électeurs d'Emmanuel Macron dans les gens qui aujourd'hui disent qu'ils vont voter Glucksmann.
Et du Jadot.
Et du Jadot, effectivement. Mais Jadot, comme il a fait un score plus petit, bah, il y en a un peu moins. Mais alors que quand vous regardez les autres listes, par exemple, vous regardez les autres listes de gauche, eh bien, ceux qui votent, qui disent qu'ils vont voter, par exemple, pour Manon Aubry, la liste de la France Insoumise, bah, en fait, ils viennent ultra majoritairement du vote Jean-Luc Mélenchon en 2022. De la même manière, ceux qui votent Valérie Ayé, ceux qui disent qu'ils vont voter Valérie Ayé le 9 juin, eh bien, c'est que des macronistes. Ils ont tous voté Emmanuel Macron en 2022. Donc, l'électeur, aujourd'hui, ce que représente Raphaël Glucksmann, c'est potentiellement, en fait, il a cette force, en fait, de pouvoir agréger
une au-delà recomposée. De lui-même.
Ça s'appelle, et donc, Pablo, c'est ça qui permet. Ça s'appelle une dynamique. En fait,
exactement.
Il a une dynamique.
C'est, non, mais, ouais. Potentiellement, en fait, ouais, c'est le seul qui, aujourd'hui, après, il peut se passer plein de choses, hein, d'ici le 9 juin, mais c'est le seul qui, aujourd'hui, peut, voilà, engranger au-delà
mais
de lui-même.
Au point, François-Olivier Gisbert, ça, c'est la ligne. Au point de dépasser Valérie Ayé.
C'est tout à fait possible, hein. Mais simplement, c'est vrai que c'est peut-être pour ça, c'est la seule raison pour laquelle Christophe aurait pu dire ça, parce qu'elle a évidemment pas gagné le duel, c'était impossible. Ça, c'est, il raconte n'importe quoi quand il dit
elle
ça.
Elle a gagné sa soirée.
Mais elle a gagné sa soirée. Non, mais elle a gagné effectivement sa soirée. Elle peut tenir. C'est possible qu'elle tienne.
Elle est pas venue pour
c'est-à-dire
rien.
C'est-à-dire que moi, je pense que la dynamique de Glucksmann, telle que on voyait les choses, c'était parti pour passer devant. Je pense que la liste Glucksmann devait passer devant. J'en suis moins sûr aujourd'hui. Je pense qu'il s'est peut-être passé quelque
rien
chose.
Rien que ça, c'est un triomphe.
Mais même si, mais ouais, c'est pas un triomphe parce que derrière.
Il veut pas le dire.
Mais non, c'est pas ça. L'autre, c'est une machine. C'est un tank.
Mais attends. Non, mais le Bardella,
c'est une machine.
Attends,
c'est impossible.
L'élection,
il est tellement loin de
l'élection,
devant.
L'élection, elle est pliée. L'élection, elle est pliée.
Il est en haut de la montagne.
C'est quand même bien la première fois que vous êtes à peu près d'accord.
Le 9 juin, Bardella sera en tête, c'est évident. Mais imagine, Franz, que Bardella fasse 29 et ayez 20. 9 points d'écart, ça sera un triomphe
pour
Bardella. Mais on dira,
il a fait moins de 30, c'est décevant. Non,
mais sur la concurrence entre Glucksmann et Ayé, moi je suis absolument pas d'accord avec Christophe, avec tout le respect que je lui dois, parce que d'une part, Valérie Ayé ce soir, je vois pas en quoi elle a rassuré un électeur de gauche. Elle essayait quand même de montrer qu'elle était pour l'autorité. Elle essayait quand même de montrer que le pacte asile et immigration c'était quelque chose de très raide, exactement, et que donc elle essayait quand même de venir un peu sur le terrain qui peut plaire à
la gauche macroniste,
un électeur de droite.
Ceux qui ont voté 20 sous Cazeneuve.
Et la deuxième raison, c'est que Glucksmann fondamentalement brise le pari politique d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que le pari politique d'Emmanuel Macron, c'est il y a les deux bouts de l'omelette, l'extrême gauche, l'extrême droite. Moi, je suis le cercle de la raison et contre les périls des deux bords, j'offre une alternative raisonnable, rationnelle et bon teint. Et en fait, Glucksmann arrive avec une équation que la gauche, dont la gauche nous avait privé depuis de nombreuses années, parce que la gauche hystérique de Jean-Luc Mélenchon ou la gauche un peu perdue des écolos, Glucksmann, il arrive avec une social-démocratie extrêmement sophistiqué, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est nuancé en économie, c'est malin en géopolitique. Enfin, je partage pas forcément ses opinions, mais c'est pondéré, c'est bien réfléchi, c'est attrape tout au bon sens du terme. Et je vois pas en quoi aujourd'hui Valérie Ayé va convaincre un électeur de gauche de retourner chez elle plutôt que de rester chez Glucksmann.
Et on va continuer à en parler, à débriefer ce premier débat entre Jordan Bardella et Valérie Ayé. Dans quelques minutes, vous ne bougez pas avec les réactions aussi des deux candidats. Dans les coulisses, là, on va vous les montrer dans un instant. Je voulais aussi vous rappeler un autre rendez-vous, une autre échéance importante cette dernière ligne droite avant les élections. Ce sont les 8 candidats qui s'affronteront. Ce sera le 27 mai sur BFM TV. Ce sera animé par Apolline de Malherbe et Maxime Switek. Voilà, un autre rendez-vous à ne pas manquer. Nous, on se retrouve dans quelques minutes en direct. Vous ne bougez pas, à tout de suite.
Minuit, Julie Hamet.
Et on continue à débriefer en direct, bien sûr, ce premier débat entre Jordan Bardella et Valérie Ayé. Plus de deux heures et demie de face à face à un mois des campagnes, de la campagne des européennes. Il y a eu une question de Benjamin Duhamel qui était, voilà, donner la qualité, le défaut de l'un et de l'autre. Exercice pas tout à fait facile. On va écouter d'abord Valérie Ayé là-dessus.
Un défaut, la duplicité. Parce que je considère que Jordan Bardella raconte ce qu'il ne vote pas, et ne vote pas ce qu'il raconte. Et puis une qualité, je dirais le culot. Le culot d'énoncer autant de mensonges avec autant d'aplomb.
La duplicité et le culot, ça c'est pour Jordan Bardella. Et
de l'autre côté...
Voilà, que pense Jordan Bardella de Valérie Ayer ? On écoute à nouveau.
J'ai beaucoup de respect pour vous. Si je devais choisir une qualité, je dirais courageuse. Parce que vous représentez dans ces élections européennes... le bilan d'Emmanuel Macron sur le plan français comme sur le plan européen. En tout cas, c'est comme ça que vont le percevoir les Français lorsqu'ils iront voter le 9 juin prochain. Et vous êtes portée candidate alors que personne ne souhaitait porter dans ces élections européennes les couleurs d'Emmanuel Macron.
J'avais dit en un mot. Hein.
Tous les ministres se sont débinés. Ouais. Personne n'a voulu y aller. Vous avez souhaité y aller. Je pense qu'il faut louer votre courage.
C'est plutôt malin.
Alors, c'est très malin. En plus, il le fait avec un petit sourire amusé, Jordan Bardella. Donc, je dirais, il se targue de louer son adversaire tout en disant, au fond, le pire, puisqu'il dit, vous portez le bilan, personne n'a voulu y aller, et c'est vous qui héritez de ce fardeau. Et son défaut, c'est vous portez le bilan. Donc, si vous voulez, il fait du judo en souriant. C'est un petit morceau, un vrai petit morceau d'habileté. Alors qu'à ce moment-là, elle a parlé.
Ouais, elle parle quand même de duplicité.
Elle
a parlé de culot, justement. Elle aussi.
Oui,
c'est plutôt
mais
elle,
marrant. Oui, non, mais
c'était plutôt marrant parce qu'il a fait preuve de culot.
Elle le fait pas avec la même aisance. C'est-à-dire qu'elle, on la sent. Elle sait pas où regarder. Elle sait pas encore où poser ses yeux. On sent que ça tâtonne et que c'est.
C'était la deuxième
intervention pour chacun d'entre eux. Mais c'est vrai que c'est un joli moment du débat parce que je trouve qu'il y a là une cristallisation de ce que l'un et l'autre sont, de comment ils se regardent, de comment ils se positionnent l'un face à l'autre.
Ils sont tous les deux à contre-emploi. Elle est censée incarner l'axe central, raisonnable, modéré, et elle se retrouve dans une position, entre guillemets, un peu agressive. Et lui, qui est censé être un horrible extrémiste de droite, attisant les haines, comme elle l'a dit pendant le débat, se retrouve à être... vraiment fair play en disant vraiment vous êtes courageux, Bruno Le Maire a pas osé y aller, vous avez relevé le gant, bravo.
Ils ont pris l'attitude non pas de leur positionnement idéologique en effet parce que ça aurait dû être ça, mais de leur positionnement dans les sondages. Exactement. Lui il est magnanime parce qu'il a 15 points d'avance, ouais. Qu'est-ce qu'il va aller dire, qu'elle est nulle, qu'elle est pas bien, qu'elle est bon. Donc il se permet un compliment un peu vachard, elle au contraire elle doit montrer qu'elle a des griffes, qu'elle a des dents, qu'elle est capable de combattre. Elle sait bien qu'elle va pas le rattraper de toute façon, mais elle veut montrer à son camp que c'est une guerrière, qu'ils ont bien fait de la choisir. Donc, quelque part, ils marquent un point tous les deux.
Ce débat, il était particulièrement décisif pour elle, plus que pour lui d'ailleurs.
Ah bah oui, parce que lui, il est dans une position qui, il avait joué pas vraiment beaucoup sur ce débat. Bon, il y a toujours la question de, Christophe dit toujours, il y a la question du seuil et où c'est vrai qu'il peut pas se permettre de descendre en dessous les 30, sinon ce serait, donc il peut pas faire de grosses erreurs. Il était quand même dans une situation où il est apparu longtemps comme un peu esquivant les débats, ayant un petit peu pataugé sur 2-3 thèmes compliqués au début de la campagne, l'agriculture, où il a été pris un peu en défaut, même d'être pas tout à fait sur la ligne du parti. Marine Le Pen l'avait recadré. Donc, il y avait quand même ça pour lui qui jouait, mais c'était surtout elle qui jouait, qui jouait gros. À la fois la question de la notoriété, et puis surtout, ne pas couler à pic pendant un débat. Je rappelle quand même qu'il y a 5 ans, sa prédécesseure, face au même Jordan Bardella, avait vraiment coulé à pic. Et un vrai naufrage, c'est assez rare, il y en avait eu un ce jour-là.
Ça n'a pas été son cas
aujourd'hui, mais c'est sûr qu'elle jouait gros, parce que elle est... dans le rétroviseur, il y a Raphaël Glucksmann. Et là, pour le coup, l'écart, il est vraiment ténu.
Trois points derrière.
Et ça va se jouer maintenant.
Mais c'est vrai que tout le monde avait les yeux braqués sur Valérie Ayer en disant, en plus, elle prend un gros morceau ce soir, elle est loin dans les sondages, elle représente le camp présidentiel et elle est en passe d'être distancée par Glucksmann. Mais en vérité, l'enjeu était quand même extrêmement important pour Bardella ce soir. Pour les raisons que vous avez rappelées, Bruno, jeudi, effectivement, qu'il y avait une petite musique, il est planqué, il refuse de débattre sur des chaînes un peu moins prestigieuses et il esquive les concurrents. Et puis aussi, parce que tout l'enjeu et la stratégie de Jordan Bardella dans ces européennes, c'est de dire c'est un référendum pour ou contre Macron. Mmh. Donc bon, maintenant, c'était à charge à lui ce soir de montrer qu'il avait vraiment des billes dans son sac contre le président de la République.
Est-ce qu'un accident est encore possible ? Marine Le Pen l'a rappelé cette semaine, elle dit on a deux ennemis, c'est l'abstention et la dispersion. Elle parle de reconquête notamment qui
pour l'instant réuni 5-6% dans les sondages. On se rappelle des régionales, il y a 3 ans, aucune région emportée par le Rassemblement national.
C'est un scrutin à 2 tours, c'est un peu différent. Moi, je crois quand même que l'allié principal là, du Rassemblement national dans cette élection, c'est l'actualité. Hein. Vous avez vu les questions d'actualité au début qui ont été posées par Benjamin Duhamel. Il les a pas sectorisées pour complaire à Jordan Bardella. Je veux dire, sur ce plateau, tous les jours, on parle de Viry-Châtillon, de Samara, de l'islamisme, de la néo-charia, etc. Et c'est des choses qui, évidemment, valident l'état du
Rassemblement
national.
Sauf si l'actualité dans 15 jours, c'est l'Ukraine avec une percée russe. Voilà. C'est un facteur exogène qui peut perturber la campagne Jordan Bardella. Si on est en effet avec des faits divers ou avec le problème d'immigration et même avec des problèmes économiques et sociaux type tout pouvoir d'achat, l'actualité travaillera pour lui et pour la thèse que c'est aussi contre le bilan de Macron. Si d'un seul coup la géopolitique revient en force avec une grande angoisse des électeurs, et notamment si c'est sur le front ukrainien, là ça peut être un peu plus compliqué pour lui.
On l'aura déjà fait en 2022, je suis pas sûr qu'ils se laisseront duper.
Mais il était dans la position du favori qui était la sienne, il avait à cœur, et il l'a répété au début et à la fin, il a fini, ce sont ses derniers mots, d'appeler les électeurs à venir voter. C'est-à-dire que Jordan Bardella, il a juste peur d'une chose, c'est que fort de cette espèce d'aisance...
C'est gagné
des ans sondagières et de la façon dont, au fond, on a tous dit le match est plié, la question c'est combien il fait, mais de toute façon il fera 30, voire plus, il a peur de démobiliser son électorat. Et c'est ça qu'il avait en tête. Et à plusieurs moments, si vous regardez le débat, vous verrez qu'il a eu à cœur de rappeler ça, et ce sont vraiment ses derniers mots, c'est les yeux dans les yeux, face caméra, de dire aux gens... Allez voter le 9 juin, sous-entendu.
Alors, il craint pas la dispersion.
Votez pour moi. Non, il craint pas la dispersion.
Il a pas cherché à tacler Reconquête ou Bellamy.
Rien.
Donc c'est plutôt l'abstention.
Ce qu'il craint, c'est l'abstention des électeurs qui devraient voter pour lui et qui se disent bon, c'est gagné, c'est plié, il n'y a pas besoin de se déplacer.
Ouais, moi, deux petites choses. La première chose, c'est qu'effectivement, un débat, c'est un exercice démocratique qui est très important. Après, l'impact d'un débat sur des dynamiques politiques qui, en fait, vont chercher leurs racines beaucoup plus profondément dans la société, que juste voilà un échange, une joute verbale avec des pics bien sentis. Si c'était vraiment là-dessus qu'on jugeait des candidats ou des candidates à des élections, je sais pas moi, Michael Youn, c'est président de la République, c'est pas le cas. Donc genre
au hasard,
ça veut dire que c'est pas
au hasard. Au hasard, hasard. Tout
attendez, peut-être que ça arrivera. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que vous avez parlé effectivement que voilà, Jordan Bardella est au-dessus de 30%. Et c'est marrant parce
que ce sont les sondages qui le donnent au-dessus de 30. Voilà.
Tout à fait. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que les courbes de Valérie Ayer et de Glucksmann vont se croiser? C'est-à-dire que moi, c'est ça qui m'étonne, en fait. C'est-à-dire que tout le monde a identifié, je parle de toutes les listes à la gauche de Jordan Bardella. Tout le monde a identifié que le danger et celui qui est en tête, c'est Jordan Bardella. Mais l'objectif, c'est qui va être le deuxième? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coalition, en fait, comme il y en a, par exemple, au deuxième tour des élections régionales, au deuxième tour des élections législatives.
C'est une élection à un tour.
Je suis complètement d'accord.
Et aux européennes, il y aura même probablement 34 listes.
Bruno, je suis complètement d'accord, mais il n'en demeure pas moins que le bateau est en train de prendre l'eau. Et que tous les républicains de ce pays sont en train de se dire, non mais là, en fait, on a l'extrême droite qui est à plus de 30%. Donc, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Mais non, les logiques, en fait, partisanes, les logiques d'élection, parce que j'ai regardé la composition de la liste, par exemple, de Renaissance. Bon, en gros, c'est les sortants, ils ont remis tous les sortants et ils vont
on
les faire réélire.
On n'a pas encore.
Si, ça y est, le Figaro l'a sorti. Le Figaro l'a sorti, oui, très peu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des logiques.
À gauche,
en fait,
qui sont très
des logiques inertielles. Aussi à gauche, effectivement, tout à fait. Il y a des logiques inertielles, en fait, des partis qui veulent absolument sauver leur siège ou exister dans le paysage médiatico-politique qui parfois en fait perdent de vue alors même que ça fait partie de l'ADN de ces listes de gauche, perdent de vue que l'objectif c'est aussi de faire baisser Jordan Bardella.
Est-ce qu'il va falloir que Gabriel Attal s'implique plus dans la campagne européenne pour épauler Valérie Ayer qui souffre d'un déficit de notoriété?
C'est indispensable. Elle a peut-être aujourd'hui arrêté l'hémorragie, c'est peut-être le coup de pied au fond de la piscine, mais elle a besoin en effet d'être aidée par l'exécutif. En 2019, Emmanuel Macron, qui sortait du grand débat plutôt réussi, il avait calmé les gilets jaunes, a apporté son écho à la campagne de l'oiseau. et Édouard Philippe est venu dénoncer la droite Trocadéro, par allusion au meeting de Fillon en 2017 sur la place du Trocadéro. Et c'est ça qui avait cassé le phénomène Bellamy. Et il avait ramené une partie de la droite, notamment des électeurs âgés, vers le camp présidentiel. Donc il faut absolument qu'Attal aide Valérie Ayer à casser l'éventuel effet Glucksmann et à remobiliser le camp macroniste. C'est très difficile parce qu'ils ne sont pas dans le même état qu'en 2019.
Alors je pense que c'est indispensable que Attal s'implique. D'autant plus que ce soir, quand même, je trouve que Valérie Ayer, avec ses moyens, son inexpérience et sa bonne volonté, on a bien vu qu'à un moment, elle pouvait un peu fissurer le Jordan Bardella. Donc c'est possible. Et donc, c'est vrai que Gabriel Attal, je ne sais pas s'il y aura ce
alors
débat.
Alors oui, il accepte en tout cas de le faire. Finalement, il accepte de débattre avec Jordan Bardella.
Donc on va dire c'est Emmanuel Macron.
Et
à mon avis, le camp macroniste ne pourra pas, ne sera obligé de l'utiliser pour monter beaucoup plus en pointe et surtout repousser Glucksmann. Ils ont commencé en disant du bien de Glucksmann, la campagne. Je peux vous dire, ça va pas se terminer comme
Non.
Ça va se terminer où là, ça va être vraiment l'adversaire. Parce que franchement, peut-être que Jordan Bardella, aujourd'hui, c'est compliqué de réduire l'écart, encore qu'une élection n'est jamais terminée avant qu'elle ait eu lieu. Mais ce qui est certain, c'est que l'écart avec Glucksmann, aujourd'hui, c'est la marge d'erreur. Donc là, franchement,
à 3 points d'écart. Je donne la parole dans un instant à Anna Cabana, je vous le promets. Mais juste avant, on a une réaction. La réaction dans les coulisses à la sortie du débat à chaud de Jordan Bardella, interrogé par Sophie Dupont, notre journaliste. Regardez.
Vous venez de sortir à peine du débat. Comment vous avez trouvé ce débat et votre adversaire ?
Bah, c'est plutôt aux Français qu'il faut demander ça. En tout cas, je pense que c'était une clarification sur les deux visions qui vont s'affronter dans le cadre de ces élections européennes. Et on comprend que les macronistes veulent aller encore plus loin, encore plus d'immigration, encore plus de normes, encore plus de taxes, un impôt européen et encore plus, d'élargissement à l'égard de pays qui créent une concurrence déloyale dans l'Union européenne. Donc voilà, c'est deux choix de société qui se posent, en fait. Et moi, j'appelle les Français à voter parce que je pense que c'est aussi un référendum pour ou contre le délitement de la France, le 9 juin.
C'est la première fois que vous l'affrontiez. Est-ce que vous l'avez trouvé redoutable, Valérie Ayer ?
Je l'ai trouvé un peu perdu sur les sujets européens. Très, très confuse et puis pas très élégante. C'est-à-dire, on vient très vite, au bout de 10 minutes d'émission, à parler de Jean-Marie Le Pen, c'est qu'on n'a pas grand-chose à dire sur le fond.
Vous avez raison, il a peur de l'abstention.
Bah, il le redit, c'est-à-dire que son message numéro un à la fin de ce débat, et devant nos micros, c'est pareil, hein, c'est de dire j'appelle les Français à aller voter le 9 juin. C'est-à-dire que son sujet, c'est à force de dire Bardella a gagné, le RN a gagné, etc., et bien que son camp se démobilise en amont.
On a la réaction également de Valérie Ayer, toujours au micro de Sophie Dupont, on regarde.
Vous venez de sortir de ce débat, est-ce que vous êtes contente de vous ?
Je crois que c'était un débat intéressant pour les Français, avec deux visions assez différentes, il faut le dire, de ce que doit être l'Europe au service des Français. Je crois avoir débattu et démontré la pertinence du projet européen que je défends avec une réalité, un besoin d'Europe au service des Français.
C'est la première fois que vous affrontiez Jordan Bardella. Comment vous l'avez trouvé face à vous dans ce débat ?
Bon, écoutez, je crois que c'est pas à moi de faire le commentaire et les éditorialistes sur votre plateau ont eu l'occasion de le faire. Je suis presque privilégiée d'avoir eu l'occasion de débattre avec Jordan Bardella puisque jusqu'à présent il avait refusé tous les débats. On aura une succession de débats dans les prochaines semaines d'ici à l'élection, d'ici au 9 juin. Donc autant d'opportunités de redire aux Français quels sont nos projets et à quel point ils sont différents pour cette élection européenne qui est importante pour l'avenir de notre Europe.
La suite, ça va être quoi, Anna ? Gabriel Attal, on disait qu'il va s'impliquer de plus en plus. Emmanuel Macron aussi, il reste un mois.
Alors, il n'a pas eu le choix, Gabriel Attal. Hein. C'est-à-dire que ce n'était pas sa volonté. Vous vous souvenez, y compris au micro de Benjamin Duhamel, hein, il avait dit non, moi je suis Premier ministre, responsable devant le Parlement, la présidente du groupe d'opposition au Parlement, c'est Madame Le Pen. Donc moi, je propose un débat à Madame Le Pen. Il avait à plusieurs reprises, c'est-à-dire que ça fait des semaines et des semaines qu'à chaque fois que la question lui est posée, Gabriel Attal dit non, c'est pas pour moi, moi je suis Premier ministre. Et c'est l'Élysée, et c'est la volonté de l'entourage du président de la République et du président de la République lui-même de faire que Gabriel Attal se mouille, qu'au fond, il n'y a pas de raison qu'il ne participe pas et qu'il, comme vous vous souvenez de ce qu'avait dit Emmanuel Macron le 20 décembre dans l'émission C'est à vous, il a dit qu'il faut qu'il mette son talent et sa popularité à mon service, à moi, Emmanuel Macron. Bah là,
et pourquoi est-ce que lui, alors, il ne voulait pas y aller vraiment
mais il y
le
va aussi.
Fond de la raison,
alors,
c'est quoi
non, mais et Gabriel Attal, bah, c'est parce que il sait que c'est pas gagné, pour le dire. C'est même une vraie litote. C'est-à-dire que Gabriel Attal, il n'a pas envie que son nom soit abîmé dans ces élections. Donc, Il préférait tenir son rang et son rôle de Premier ministre et rester un peu à distance de ces européennes en ayant fait le minimum. C'est-à-dire qu'il a lancé, souvenez-vous, la campagne des européennes avec Valérie Ayer à Lille. Il a fait un des premiers porte-à-porte avec Valérie Ayer. Et puis après, il a
dans
dit...
Dans sa circonscription.
Voilà, dans sa circo. Et puis après, il a dit, ça y est, c'est bon. Eh bien, Macron lui a dit, non, on y retourne. Voilà, on y retourne et il va falloir mouiller le ring.
Du coup, Anna, vous qui savez tout, est-ce que ça veut dire que le 9 juin, il pourra aussi être tenu comptable du score éventuellement mauvais
c'est
de
Valérie? C'est précisément ce qu'il veut à tout prix éviter.
Je suis d'accord.
Soyons bien
mais
précis.
Là, on le force à le faire. Est-ce que le 9 juin, Emmanuel Macron pourra lui dire, écoute, Valérie Ayer, elle a fait, 11%, c'est une catastrophe. Au revoir. Tu as foiré. Parce que c'est vrai que c'était sa fiche de, c'était une de ses missions qui lui avait été donnée.
Il était
lorsqu'il a été nommé.
Il a été choisi par
en
Emmanuel Macron.
On pourrait imaginer que il a raté.
Lui aujourd'hui, il explique que c'était pas du tout ça sa feuille de route. Quand même, en gros, il dit.
Oui.
Mais l'anecdote,
on avait organisé pendant la campagne présidentielle de 2022 un débat avec différentes personnalités politiques au Palais des Sports, organisé par Valeurs Actuelles. Et on avait proposé à Gabriel Attal de débattre face à Jordan Bardella. Et il nous avait fait comprendre à l'époque que lui, il était passé dans une catégorie un peu supérieure et qu'effectivement, c'était Marine Le Pen ou rien parce que il voulait débattre face à des candidats à la présidence de la République. Et aujourd'hui, finalement, il est un peu rattrapé par la patrouille, mais par son propre patron.
Mais est-ce que Bardella, aujourd'hui, aurait intérêt à débattre avec Attal?
Je pense. Bardella a plus d'intérêt à débattre avec Attal que l'inverse.
Bardella le demande et le redemande, comme vous le savez.
Là, il est dans une logique, en effet, où il ne veut pas démobiliser son électorat, où il veut garder quand même un certain avantage sur la problématique européenne, notamment avec les migrations. Venir sur le terrain purement national avec le Premier ministre, ça serait prendre un risque quand même. Parce qu'il va falloir parler des comptes publics. Comment il finance la retraite à 62 ans, M. Bardella? Comment il finance les augmentations du SMIC? Comment il finance
tous les cadeaux? Il va lui parler de Thierry Châtillon, il va lui parler de Matisse, il va lui parler de Philippe, à Grande-Sainte.
Il n'y aura pas que ça.
C'est ça qui, je pense,
la nouvelle génération dont parlait François-Olivier Gisbert, qui nous a malheureusement quitté, il y a évidemment en tête de cette nouvelle génération, il y a Gabriel Attal. C'est-à-dire qu'en fait, ce que veut faire Jordan Bardella, c'est poser dès à présent le débat d'après. C'est-à-dire que pour Bardella, l'adversaire d'après, ça sera à un moment ou à un autre, ça sera Attal. Et donc, ils se sont l'un et l'autre reniflés comme la suite, au fond. C'est-à-dire comme les rivaux d'après. Et de ce point de vue-là, ce débat, s'il a lieu, désormais, on sait que
ils ont accepté, mais on n'a pas encore les détails.
On sait que Attal a dit qu'il ne se déroberait pas, mais il n'y a pas ni de jour, ni de lieu, ni de format. Mais si ce débat a lieu, ça sera clairement le moment de la cristallisation politique de l'après-Macron.
On peut se féliciter d'ailleurs d'avoir un renouvellement en France, puisque Valérie Ayer, elle a 38 ans, Bardella 10 de moins, Attal n'est pas vieux, Glucksmann apparaît comme un aîné alors qu'il est neuf, et ça c'est plutôt bien. C'est quand même mieux que Biden-Trump quand même.
On peut être jeune dans son corps et vieux dans sa tête.
Bien sûr, mais on continue quand même.
Non mais il y a des
le renouvellement.
À qui pensez-vous, cher Pablo?
Non mais parce que en vrai,
la capacité des formations à trouver des nouveaux leaders, c'est intéressant ça.
Oui, d'accord, mais le problème c'est que lorsque les idées sont vieilles comme le monde, je sais pas, j'en prends une au hasard, mais tu salis, tu nettoies. Moi je m'en suis pas remis, c'est-à-dire c'est
donc Gabriel Attal pour sous-titrer quand même.
Discours de politique générale
ou l'augmentation des impôts, c'est aussi une idée vieille comme le monde, ça, à gauche. C'est une idée vieille comme le monde. Oui.
On l'a pas assez mise en pratique, je trouve. Mais
François Hollande l'a bien mise en pratique, ça lui a coûté cher.
Allez-y, Pablo.
Il y a une superficialité, en fait, à regarder parfois le renouvellement par les âges uniquement, sans regarder, en fait, les propositions qui nous sont faites. Et ou alors de regarder par exemple l'opposition Ayer Bardella dans ce débat sans véritablement écouter ce qu'il raconte. Et moi je suis désolé, mais tout à l'heure était cité le cas des faits divers particulièrement violents dont Jordan Bardella a dit qu'il faisait système. En fait, Valérie Ayer, elle a fait une proposition qui ressemblait vaguement à celle qu'avait faite juste avant Jordan Bardella. C'est-à-dire, oui, il faut de l'autorité, oui. C'est-à-dire qu'elle validait plus ou moins tout ce que lui proposait. Donc, il n'y a pas de débat. Enfin, je veux dire, à part qu'ils se sont lancés des piques et qu'ils ont fait semblant de ne pas être d'accord. Mais
Alors, justement.
Voilà, donc on n'a plus le temps. Je suis désolée, c'est la fin. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débrief. Il est temps d'aller se coucher, Tugdual Denis, quand même.
Je vais continuer tout seul sur le trottoir.
Une autre échéance à ne pas manquer. Le prochain débat, ce sera le 27 mai sur BFM TV, bien sûr, avec les 8 candidats cette fois. Ce sera le 27 mai. Très bonne soirée sur BFM TV. Tout de suite, le journal en direct présenté par Thomas Joubert.